service francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le Monde aujourd'hui, chez Robin Dorsil et Idrissa Seydou Dia à Washington. Bienvenue à l'écoute de VOA Afrique.
Les grands titres de l'actualité, le sang a coulé de nouveau au Nigeria, au moins 20 morts dans une attaque de Boko Haram.
Le pouvoir va changer de main en Tunisie, Kaïbé Sebsi remporte la présidentielle face au chef d'État sortant Moncef Marzouki.
Le secrétaire général de l'ONU appelle au redressement des économies et systèmes de santé des pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola.
Nous reviendrons sur le meurtre de deux policiers à New York à un moment où la tension reste vive entre la police et les minorités suite à plusieurs bavures policières.
C'est vraiment dégueulasse. Au fond de moi, c'est inexplicable la peine que je sens.
Marc Elias, ancien chef de la police de North Miami, et nous aurons comme d'habitude notre page économique, les sports et la musique. Mais d'abord, le journal. Au Nigeria, l'explosion d'une bombe a fait au moins 20 morts et 21 blessés dans une gare routière de la ville de Gombe. C'est la deuxième fois cette année que cette station de bus est attaquée. Une voiture piégée avait fait 10 morts au mois d'octobre. Jean-Roger Bion.
D'après l'AFP, la Croix-Rouge est venue avec 20 sacs mortuaires qui ont tous été utilisés. Les efforts pour retrouver d'autres victimes se sont poursuivis. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais le nord-est du Nigeria est une région régulièrement frappée par le groupe islamiste Boko Haram. L'état de Gombe est voisin de ceux de Borno et Yobe, les deux zones les plus touchées par l'insurrection islamiste de Boko Haram, qui a fait 13 000 morts et 1,5 million de déplacés en 5 ans. Les insurgés ont déjà revendiqué de nombreux attentats dans des gares routières visant souvent des passagers en partance pour le sud du Nigeria, majoritairement chrétiens.
Eh bien, parlons maintenant du Sénégal où la cour spéciale qui juge à Dakar pour enrichissement illicite présumé Karim Wade, ex-ministre et fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, a fait part lundi qu'elle rendrait le 29 décembre une décision sur une demande de liberté provisoire pour le prévenu en détention préventive depuis avril 2013. Jacques Aristide.
C'est Henri Grégoire Diop, président de la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite du Sénégal, qui a fait cette annonce à la reprise du procès de Karim Wade après 3 semaines de suspension. Le parquet et la partie civile ont déjà rejeté cette requête de liberté provisoire. Ils craignent notamment un risque de subornation des témoins et une fuite en France de Karim Wade, des arguments qui ne tiennent pas la route d'après les avocats de la défense. L'audience de ce lundi a été marquée par le retour à la barre d'un des principaux coprévenus de M. Wade, Ibrahima Abou Khalil Bourgi, dit Bobo, un homme d'affaires présenté par l'accusation comme un prête-nom de M. Wade. Le fils de l'ancien président sénégalais est accusé d'avoir illégalement acquis 117 milliards de francs CFA, environ 218 millions de dollars, par le truchement de montages financiers complexes du temps où il était conseiller, puis ministre de son père. La défense maintient que son patrimoine s'élève à moins de 3 millions de dollars que Karim Wade a accumulé en tant que trader en Europe avant d'être embauché par son père.
En Tunisie, l'ex-premier ministre Béji Kaïdé Sebsi a remporté la présidentielle de dimanche face au président sortant Moncef Marzouki. Des précisions avec Eddy Issango.
L'instance électorale a annoncé la victoire de Béji Kaïdé Sebsi avec 55,68% de voix. Victoire que les camps de ces derniers revendiquaient déjà dès la fermeture des bureaux de vote dimanche. D'après l'instance supérieure indépendante pour les élections, M. Kaïbé Sebsi a obtenu plus de 1,7 million de voix au second tour, contre plus de 1,3 million pour son rival Moncef Marzouki, le président sortant, qui a plutôt réuni 44,32% des suffrages. Les taux de participation s'étaient établis à 60,1% des inscrits. Le président sortant, Moncef Marzouki, a reconnu sa défaite à la présidentielle et félicité les vainqueurs Béji Kaïdé Sebsi, selon une annonce faite sur sa page officielle de Facebook. M. Marzouki avait, lui, été élu pour 3 ans par l'Assemblée constituante à la faveur d'un accord politique avec les islamistes d'Ennahda. Deux heurts ont éclaté lundi dans le sud de la Tunisie où certains habitants protestaient contre les résultats de la présidentielle.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Au moins 20 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines blessées en Centrafrique dans des affrontements entre groupes armés qui ont éclaté vendredi. Dans des affrontements entre groupes armés, donc, dans samedi et vendredi et samedi, dans la région de Bambari, dans le centre de la RCA. C'est ce qu'a appris aujourd'hui l'AFP auprès de la gendarmerie centrafricaine. Les incidents ont opposé des pôles armés et des ex-rebelles Séléka d'une part et des miliciens anti-Balaka de l'autre.
En République démocratique du Congo, un responsable local a dit aujourd'hui à l'AFP que 7 personnes ont été tuées et 5 autres grièvement blessées par les hommes armés dimanche soir dans un secteur minier de la province du Sud Kivu, dont l'est du pays.
Le frère de Bertrand Bilal Zoha Bonayo, français d'origine burundaise, abattu samedi en France après avoir agressé des policiers dans un commissariat du centre de la France, a été arrêté à Bujumbura, la capitale du Burundi, a annoncé le service national de renseignement. Les enquêteurs burundais cherchent notamment à savoir quand les frères, nés dans une famille chrétienne et qui ont émigré en France en bas âge, ont basculé dans l'islamisme pur et dur et vérifié s'ils ne préparaient pas un attentat au Burundi, selon des sources policières et au service national de renseignement.
Quelques 300 personnes ont déposé dimanche des balais sur la tombe de Thomas Sankara pour le 65e anniversaire de sa naissance, un geste symbolique visant à demander justice pour l'ex-président du Burkina Faso, tué lors du putsch de 1987.
Eh bien maintenant, pour aider, il faut aider les économies dévastées par Ebola à se redresser et tirer les leçons de cette épidémie pour se préparer à la prochaine, a affirmé lundi le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, de retour d'une tournée en Afrique de l'Ouest. Monsieur Ban a souligné l'urgence de mettre au point une stratégie pour le redressement des économies et des systèmes de santé des pays affectés, selon l'AFP. Il a indiqué avoir donné instruction aux agences de l'ONU, en particulier le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, de se pencher sur ce dossier.
En Irak, la coalition dirigée par les États-Unis a poursuivi ce lundi ses frappes aériennes contre les militants de l'État islamique près du mont Sinjar. La veille, les combattants kurdes de la région, les Peshmerga, avaient réussi à briser le siège imposé par les djihadistes. Plusieurs unités de combat ont été atteintes et des véhicules et habitations appartenant aux militants ont été détruits, selon les dirigeants de la coalition. Par ailleurs, 7 autres frappes ont eu lieu à travers l'Irak, tandis qu'en Syrie, les attaques contre l'État islamique se sont concentrées autour de la ville de Kobané, limitrophe de la Turquie.
Rencontre au sommet à Kiev entre les présidents de l'Ukraine et du Kazakhstan. Petro Poroshenko et Nursultan Nazarbayev ont notamment discuté de la coopération militaire bilatérale et de la crise dans l'Est ukrainien. Cette rencontre intervient après la visite hier à Kiev du président du Bélarus, Alexander Loukachenko, qui a offert son soutien à M. Poroshenko.
Escalade dans le froid entre Washington et Moscou, situation liée notamment au rôle de la Russie en Ukraine. Les États-Unis ont décidé de remplacer par des citoyens américains tous les employés locaux et en rang de superviseur dans leur ambassade et consulat en Russie. Les précisions de Michel Joseph. Nous nous excusons pour cette difficulté technique. Les autorités pakistanaises annoncent l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées d'avoir pris part la semaine dernière au massacre de Peshawar, où près de 150 élèves et enseignants ont trouvé la mort. Le ministre de l'Intérieur, Chaudhry Nisar Ali Khan, accuse ses détenus d'être des facilitateurs de l'assaut revendiqué par les talibans, sans toutefois en préciser le nombre.
Oui, précisons que nous reviendrons sur le reportage de Michel Joseph dans notre prochaine édition. Alors, le tireur qui a abattu 2 policiers de New York avait des antécédents de violence et de troubles mentaux, selon un haut responsable de la police âgé de 28 ans. Ismail Brinsley a abattu les 2 agents de police, Meijian Liu et Raphaël Ramos, alors qu'ils étaient assis dans leur voiture de patrouille samedi à Brooklyn. Il s'est ensuite enfui dans une station de métro où il s'est suicidé. Avant la fusillade, Brinsley avait affiché sur Instagram des messages contre la police et le gouvernement et a parlé de venger la mort de Michael Brown et d'Eric Garner, 2 Noirs non armés qui sont morts aux mains de policiers blancs. Brinsley était noir. Les officiers qu'il a tués étaient asiatiques et hispaniques.
Dans son discours lundi aux membres de la Curie au Vatican, le pape François a eu des mots durs pour ses proches collaborateurs. Camille Grosdidier.
Lors de la présentation de ses vœux de Noël, le pape a développé une réflexion sur le thème « La Curie romaine et le corps du Christ ». D'un ton très ferme, le souverain pontife a évoqué les nombreuses tentations qui peuvent guetter les membres de la Curie, appelant à un examen de conscience de chacun et invitant à une purification. Qualifiant l'Église d'hôpital de campagne, le pape a repris la métaphore du corps malade affaibli par ses péchés. Parmi eux, l'absence d'autocritique par la Curie qui pourrait mener à un Alzheimer spirituel avec l'oubli de l'histoire du salut dans la vie. La mondanité, l'autoglorification, le carriérisme et l'opportunisme, le service se mutant alors en soif du pouvoir, ce qui peut mener à la calomnie ou la diffamation. Gardons-nous du terrorisme des bavardages, a lancé le pape. On dit que les prêtres sont comme des avions, on parle d'eux quand ils tombent, mais tant d'autres arrivent à voler.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco aujourd'hui avec Jean-Roger Bion. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Gabi.
L'Égypte cherche à attirer plus d'investissements chinois et réduire le déficit de sa balance commerciale. C'est ce qu'a fait savoir la ministre égyptienne de la coopération internationale.
Najla Alawani et une importante délégation ministérielle séjournent en Chine pour préparer la visite à partir de mardi du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. L'Égypte et la Chine ont signé dans les années 90 un accord de coopération stratégique qui n'a pas réellement été mis en œuvre. C'est ce qu'a expliqué la ministre. Plusieurs projets seront lancés avec les Chinois dans des domaines vitaux comme le transport, l'électricité, les chemins de fer et la remise en état des routes.
Et il faut dire aussi que la Chine est à pied d'œuvre en Algérie où elle a conservé en 2014 la place de premier fournisseur qu'elle a ravi d'ailleurs à la France en 2013.
Et les chiffres du commerce extérieur algérien publiés révèlent en effet que la Chine vient en tête avec 7,44 milliards de dollars d'exportation vers l'Algérie devant la France, 5,89 milliards de dollars suivi de l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne.
Le Kenya, la Tanzanie et la Zambie lanceront bientôt un projet d'interconnexion de leur réseau électrique, Jean-Roger.
Ce projet va nécessiter un investissement de 1,4 milliard de dollars. Il s'agit d'aider les pays concernés à passer progressivement de l'électricité thermique très coûteuse à l'électricité hydraulique et géothermique. En début de mois, le Kenya a signé un accord pour exporter de l'électricité au Rwanda en passant par l'Ouganda.
Merci, Jean-Roger Bion.
Et les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir Idrissa, bonsoir à tous.
Le tirage au sort du prochain championnat d'Afrique des moins de 20 ans, ce 21 décembre 2014 au Caire.
Oui, on a eu donc deux groupes. Hein. Dans le groupe A, on aura le Sénégal, le Nigeria, le Congo et la Côte d'Ivoire. Dans le groupe B, ce sera le Ghana, l'Afrique du Sud, le Mali et la Zambie. Le tenant du titre, l'Égypte, n'est pas qualifiée pour cette 19e édition et les demi-finalistes de cette CAN, donc Junior 2015, iront en Coupe du Monde des moins de 20 ans. Ce sera du 30 mai au 20 juin 2015 en Nouvelle-Zélande.
La CAF a effectué ce lundi le tirage au sort du tour préliminaire de la Ligue des Champions.
Oui, quelques affiches à noter au cours de ce préliminaire. Le Cercle Olympique de Bamako affrontera le Maghreb de Tétouan du Maroc et le CE Sport San Pedro sera aux prises avec l'AS Kaloum de Guinée. Réaction ce soir de Rigo Gervais, entraîneur du CE Sport.
Bon, je pense qu'on connaît bien le football guinéen et puis l'AS Kaloum n'a pas été champion par hasard. Il faut répondre au sérieux et puis il faut préparer ce match avec tout le sérieux, de sorte qu'on puisse déjà se qualifier.
On imagine que le fait d'avoir joué la finale cette année va vous pousser encore l'année prochaine à aller jusqu'en finale et pourquoi pas la Coupe.
Je pense que tout ce qu'on a fait en Coupe CAF, on aimerait le réussir au niveau de la Ligue des Champions. Donc on aura vraiment à cœur de ces actes et de profiter de notre expérience pour pouvoir aller très bien en cette compétition.
Voilà, c'était Rigo Gervais, l'entraîneur du CE Sport de San Pedro, qui affronte l'AS Kaloum de Conakry.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorsil et Idrissa Sedoudia en votre compagnie pour cette édition du 22 décembre 2014. Place au dossier du jour, Idrissa, on commence par le Cameroun.
Oh bien, au Cameroun, divers médias ont fait état de la découverte au cours du week-end d'un camp d'entraînement de Boko Haram à Guirvidik, département du Mayo-Dana et dans la région de l'extrême nord. Les suspects, de jeunes enfants et les adultes qui s'occupaient d'eux, ont été acheminés à Maroua, la capitale régionale, pour enquête. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint à Maroua David Venaï, chef du bureau régional du journal L'Œil du Sahel.
En fait, ce n'est pas un cas d'entraînement. Selon mes sources d'information, les forces de maintien de l'ordre du Cameroun avaient reçu des renseignements sur le fait qu'il y a un groupe d'individus qui sont campés dans une grande concession à Guirvidik. Guirvidik se situe dans le département du Mayo-Dana à l'extrême nord du pays. Alors, quand ils sont donc rendus sur le terrain, ils ont découvert des petits-enfants dont l'âge varie entre 7 à 15 ans, dont ils étaient au nombre de 80-84. Leurs encadreurs étaient aussi là, ils étaient une vingtaine. Alors, quand on les a interrogés, ils disent tout simplement que non, ils sont venus, ces enfants sont venus pour apprendre le Coran. Donc, voilà comment on les a interpellés. Et ces enfants qui ont cet âge, il y a certains qui ont leur carte d'identité, alors qu'à 14, 15 ans, au Cameroun, il faut absolument avoir 18 ans. Ces enfants ne parlent aucune langue locale. C'est dans ce sens que l'armée les a amenés au niveau de la Légion de gendarmerie pour exploitation.
Alors, comment s'explique leur présence dans la zone de Guirvidik, dans le Mayo-Danaï, qui est de l'autre côté du département du Diamaré, plus proche du Nigeria?
Les gens pensaient que le Mayo-Danaï était épargné de ce phénomène des islamistes, parce que c'est la première fois qu'on découvre déjà ce genre de personnes suspectes. Le Mayo-Danaï, plus précisément la zone de Guirvidik, fait frontière avec le Tchad, le long du Rogon, et de l'autre côté, via le parc de Ouaza, le Nigeria. Donc, en réalité, ils peuvent traverser et faire des mouvements à travers le parc de Ouaza, qui est très large. Pour le moment, je ne peux pas donner avec certitude qu'on a découvert un camp d'entraînement de Boko Haram.
Et pendant ce temps, l'armée camerounaise continue de faire face aux attaques de Boko Haram dans l'extrême nord.
Il faut saluer vraiment l'effort du gouvernement parce que depuis l'événement des islamistes dans cette partie du pays, le gouvernement est en train de multiplier le renfort, de multiplier les dispositifs militaires. Alors, vous savez, dans certaines zones, par exemple dans le département de Mayo-Sava, ils ont changé de tactique. Au lieu de venir maintenant avec les armes surprendre, par exemple, les paisibles citoyens ou bien les forces de maintien de l'ordre, ils viennent maintenant mettre des mines pour exploser soit les maisons, les véhicules, en tout cas tous les passants.
David Venaï, chef du bureau régional du journal L'Œil du Sahel à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En Tunisie, l'instance supérieure indépendante pour les élections a annoncé ce lundi l'identité du chef de l'État pour les 5 prochaines années, à l'issue du second tour de l'élection présidentielle hier. Il s'agit de Beji Caïd Essebsi, le leader de la coalition Nida Tounes. L'ex-premier ministre de 88 ans faisait face au président sortant Moncef Marzouki, 67 ans, opposant historique à la dictature tunisienne qui avait été installée au fauteuil présidentiel fin 2011 grâce à une alliance avec les islamistes d'Ennahda. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Sadok Belaïd, professeur émérite à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.
Ces résultats sont clairs et définitifs. Le candidat Beji Caïd Essebsi a été élu au suffrage de 55,68% des voix contre 44% pour le challenger Monsef Marzouki. Donc, Monsieur Beji Khaïd Sepsi est proclamé pour le moment, selon les résultats primaires, président de la République. Voilà.
Donc, la victoire de Beji Khaïd Sepsi a été confirmée. Beji Khaïd Sepsi pourra-t-il sortir la Tunisie de la crise pour que le pays en finisse avec la transition?
Il aura beaucoup de difficultés. Les résultats des suffrages le montrent. Il y a beaucoup de résistance politique à son leadership. Le pays, après ces 4 années d'incertitude politique, passe par une très mauvaise période de crise économique, sociale, etc., avec un grand nombre de problèmes sérieux. Mais en toute objectivité, le candidat qui vient de réussir, c'est-à-dire M. Beji Khaïd Sepsi, est très probablement la personnalité politique qui est le plus capable de résoudre ces problèmes facilement, parce qu'il a quand même une légitimité bien assise dans son pays et il a par ailleurs la sympathie et la confiance, disons, des principaux partenaires internationaux de la Tunisie, les grandes puissances, mais aussi les milieux d'affaires, les investisseurs, etc. Et là, c'est une question assez importante qui est à l'avantage de M. Beji Khaïd Sepsi et qui n'aurait pas fonctionné dans le cas du succès de M. Marzouki.
Rapidement pour terminer, professeur, qu'en est-il des islamistes des Narda? Se sont-ils impliqués dans cette présidentielle?
Non, comme vous le savez, il y a de très fortes et graves divisions à l'intérieur du parti qui ont fait que, finalement, le pays a, si vous voulez, renoncé à présenter un candidat de la Narda. Mais le fait est que une grande partie de l'électorat de la Narda a voté pour un candidat qui est M. Marzouki, l'actuel président provisoire, et qui a justement, si vous voulez, perdu les élections. Voilà.
Sadok Belaïd, professeur émérite à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.
Eh bien, ici aux États-Unis, la mort de 2 policiers new-yorkais abattus à bout portant samedi continue de susciter des commentaires. Un homme âgé de 28 ans, Ismail Brinsley, a abattu les 2 agents de police, Wenjian Liu et Raphaël Ramos, alors qu'ils étaient assis dans leur voiture de patrouille samedi à Brooklyn. Il s'est ensuite enfui dans une station de métro où il s'est suicidé. Les syndicats de policiers sont très remontés pour une réaction. Marc Elias, ancien chef de la police de North Miami en Floride.
Voici ce qui est arrivé. Étant qu'un policier de carrière de 26 ans est arrivé jusqu'au chef de la police, c'est vraiment dégueulasse. Au fond de moi, c'est inexplicable la peine que je sens. Parce que, essaye de comprendre quelque chose. Ces officiers-là, ils ont des familles. C'est un père qui a des enfants. Et lui également, il est un enfant de quelqu'un. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Essaye de comprendre quelque chose. J'ai un fils également. À l'âge de 14 ans, il me dit, papa, par exemple, si je vois une voiture de police qui approche la maison, tout à coup, je me dis, bon, est-ce que quelque chose est arrivé à mon père? L'enfant d'un policier souffre triplement plus qu'il regarde la télé. Parfois, l'enfant lui-même dit à son père ou à sa mère, je ne veux pas que tu sois un policier parce que je ne veux pas que quelque chose comme ça arrive. C'est ce que les auditeurs doivent essayer de comprendre. Regarde ce qui est arrivé. 2 policiers assis dans une voiture. Mais c'est le travail qu'un policier fait chaque jour. Mais de toute façon, il va quand même travailler chaque jour en sachant que peut-être il ne retourne pas chez lui.
Il arrive que dans ce cas, l'homme qui est accusé d'avoir abattu les policiers avait, dit-on, des troubles mentaux. Mais au-delà de tout ça, il y a un malaise dans les rapports entre les policiers et les communautés minoritaires surtout, en particulier les Noirs, il faut le reconnaître.
Moi, étant qu'un chef de police, surtout à North Miami, j'ai essayé, parce que la communauté haïtienne en faisait partie de quoi 70% de la communauté. C'est très important. La police doit servir la communauté et représenter cette communauté. Ça, c'est très important. Mais parfois, c'est difficile également. Parce que je savais faire avant, chef de la police, des investigations internes où j'investiguais des policiers qui faisaient des choses qu'ils ne devaient pas faire. Je comprends ça.
À cause de la mort de ces deux policiers, est-ce que les efforts qui étaient en cours pour améliorer les rapports entre la police et les minorités ici aux États-Unis, est-ce que vous croyez que ces efforts vont être un peu handicapés à cause de ce qui vient de se passer à New York?
Non, pas du tout, parce qu'un policier, il est un professionnel. Oui, on comprend que pour le moment, ça appelle beaucoup de peine, mais au nom des officiers qui ont été tués, il faut continuer.
L'ancien chef de police Marc Elias, que j'ai joint dans la ville de North Miami, en Floride. Il dit ça?
Oui, j'allais dire que j'aurais dû préciser au début que c'était bien entendu mon collègue Gabi qui l'interviewait. Voilà.
À Washington, une tradition mystique a été sauvegardée depuis des décennies dans un petit parc peu connu, dirait-on.
Oui, chaque dimanche après-midi, excepté pendant les mois froids de l'hiver, des percussionnistes y font entendre des rythmes endiablé, comme on disait de mon temps, et cela dure depuis un demi-siècle, je ne sais plus danser. Hein. Des centaines de personnes entourent les artistes et nombreux sont ceux qui n'hésitent pas à effectuer des pas de danse. Le Drum Circle, dimanche, reflète une histoire passionnante de tambour dans la communauté africaine-américaine. Jean-Roger Bion nous invite à Meridian Hill Park, dans la capitale américaine.
Oh, j'y ressens beaucoup de puissance et d'énergie ici quand je viens battre du tam-tam.
Ce monsieur, c'est Shango Kwame. Il joue au tam-tam depuis plus de 20 ans.
Jouer ici me rappelle l'Afrique, la mère patrie. Partout en Afrique, les tambours est joué pour célébrer. Les gens l'utilisent pour les fêtes, si la mer échauffe, juste venir ici et jouer à chaque fois.
Plus de 50 batteurs, principalement des Africains-Américains, jouent des instruments de percussion de différentes tailles, formes et origines. Certains sont professionnels, d'autres des débutants, mais tous ensemble, dans cette assemblée circonstancielle, créent à l'unisson une rythmique de tambour africain. La dynamique du rythme amène des centaines de gens à écouter et à danser. William Taft, un ancien du groupe, explique que le cercle du tambour a des racines profondes dans l'histoire des Noirs qui habitent Washington depuis 1862.
C'est le point le plus visible à Washington. Lorsque les premiers esclaves ont été libérés d'ici, la première chose qu'ils ont faite, c'était de procéder au rituel de la culture percussionniste africaine le premier jour de leur émancipation.
Mais selon Taft, le rassemblement hebdomadaire a commencé en 1965 quand les batteurs ont joué dans le parc pour honorer le militant des droits civiques Malcolm X après son assassinat.
Washington, d'ici à l'époque, était surnommée la ville chocolat, ce qui implique que la culture noire était très forte. Et ce parc a été principalement utilisé pour les activités de la culture noire et celles liées à la libération.
Depuis cette époque, Meridian Hill Park est connu dans la communauté comme étant Malcolm X Park. Au début, Taft dit que le groupe était plutôt petit, intime. Les musiciens enseignaient le tambour et la culture africaine. Comme les quartiers autour du parc ont changé au fil des décennies, le cercle a changé aussi. D'autres batteurs se sont joints à l'ensemble, d'autres races, et la foule qu'elle attirait dans le parc est devenue plus nombreuse et plus diversifiée.
Avoir l'énergie que les percussionnistes génèrent vous élève vraiment à un niveau supérieur. Vous entendez le fond sonore. C'est presque l'effet d'une boisson énergétique.
Candice Mickens, comme beaucoup d'Africains américains, dit qu'elle sent un autre type d'énergie dans le parc.
Je crois que ce lieu est vraiment sacré. Je suis venue ici pour danser pour mes joies, de danser pour mes douleurs, mes peines, ma guérison. Je suis venue ici pour tout cela.
Les vibrations spirituelles de la musique, les vibrations thérapeutiques, c'est quelque chose que nous connaissons dans notre culture. Donc, c'est le cadeau que nous donnons à tout le monde qui vient.
Les batteurs espèrent seulement que cette tradition du dimanche à Meridian Hill Park va se perpétuer et ils prennent leur rôle très au sérieux.
Et c'est la fin de cette édition qui a été mise en onde par Michel Joseph. À la console technique, nous avions Wagner Robert. À la présentation,
Idrissa Sedudia
et Chérubin Gabi Dorsine.